Chers amis, bonsoir. Donc aujourd'hui, on va parler de la Russie. Comme vous savez, par mes origines, j'ai un peu de mal à parler de la Russie d'une manière dépassionnée. Je préfère qu'un chercheur et quelqu'un qui s'y connaît vraiment et pas d'une manière émotionnelle comme moi et passionnée, donc nous présente ce qui se passe en Russie depuis quelques dernières années. Vous savez tous, bien sûr, qu'après la chute de l'Union soviétique, la Russie a vécu une période vraiment très compliquée et les changements ont été vraiment dans tous les domaines, social, politique et économique. Et de quoi je me souviens très bien, c'est par exemple l'image des colis alimentaires venant d'Europe, qui était censée être une aide humanitaire pour la population en détresse. Et je peux vous dire que cette image, ça portait un coup terrible à la fierté nationale. Et donc, quand à la fin des années 90, est arrivé un nouveau président qui a réussi de remettre la Russie sur la scène internationale, pour les Russes, ça a été un événement absolument fantastique. C'était vraiment une très très grande percée. Et donc aujourd'hui, la Russie occupe une place importante dans l'actualité. On entend parler très souvent et ne serait-ce que depuis les deux derniers jours. Donc j'ai entendu parler d'une grande manifestation à Moscou qui a eu lieu dimanche dernier et qui était un événement pour protester contre le relogement forcé des milliers d'habitants. Et donc, selon la police, il y a eu 5000 personnes qui ont défilé. Et selon une organisation indépendante, ils étaient plus de 20 000 personnes quand même. Donc c'est assez important. À un an de l'élection présidentielle et à moins de 5 mois de l'élection à la mairie de la capitale, où vivent quand même 12 millions d'habitants, la protestation a pris une tournure plutôt politique et il y avait pas mal de personnes dans le cortège qui portaient les pancartes avec le slogan « Nadayo », c'est-à-dire « on en a marre ». C'était le portrait du maire de Moscou, ancien directeur de cabinet de Vladimir Poutine. Il y a quand même des choses qui commencent à bouger malgré tout. Une autre information que j'ai entendue à la radio ce matin, selon Washington Post, Trump a communiqué des informations confidentielles à la Russie lors de la visite du ministre des Affaires étrangères, M. Sergei Lavrov, dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Ça a fait plus, si vous voulez caractériser bien évidemment Trump, mais il se trouve que j'ai été au moment des élections américaines en Russie et on voyait très bien quand même à la télé russe et dans les journaux russes que leur candidat préféré c'était quand même Trump. Et ceux qui étaient pour l'autre candidate, ils se faisaient casser les figures mais horriblement, enfin en direct à la télé, donc c'était très impressionnant. Mais il n'y a pas que ces deux événements-là, bien évidemment, il y a beaucoup plus de choses qui se passent. Il y a aussi tous les événements culturels qu'on connaît, il y a une magnifique exposition de la collection Shchukin qui a eu lieu à la Fondation Louis Vuitton. Il y a aussi la construction d'un nouveau centre culturel et religieux au pied de la Tour Eiffel, ce qui est quand même assez impressionnant, si vous voulez, sachant qu'on a déjà un centre culturel russe qui fonctionne pas si mal que ça depuis des années. Tout ce qui se passe depuis début des années 90, c'est plus ou moins connu, mais ce que j'ai vraiment trouvé absolument fantastique dans le livre qu'on va vous présenter aujourd'hui, de M. Radvani, c'est que c'est une vraie étude, c'est un vrai travail de chercheur. Parce que moi, je peux vous parler de la Russie pendant très longtemps, mais ce ne seront que des choses vraiment passionnées. Tandis que là, il y a une réflexion, une recherche, et c'est un vrai plaisir, si vous voulez, mettre de l'ordre dans tous les événements qui se sont succédés depuis le début des années 90. Et donc, je pense que c'est peut-être plus la peine de présenter Jean Radvani, qui est professeur à l'INALCO, où il co-dirige le centre de recherche Europorasie. Je pense qu'il va mieux vous présenter son livre que moi je ne le fais, et sans plus tarder, je lui laisse la parole.
Merci pour cette invitation. C'est bien de retrouver plein de vieilles connaissances qui connaissent bien la Russie. Et donc ça va être intéressant, je pense, de discuter. Alors, comme vous le savez, j'ai passé 4 ans en Russie, de 2008 à 2012. C'était une période pas tout à fait passionnante. En fait, ça a pratiquement coïncidé avec la présidence Medvedev. Non pas que Medvedev ait eu beaucoup d'autonomie, à aucun point de vue. Mais en tout cas, c'était une période assez ouverte par rapport, en tout cas, à la période qui a suivi. Puisque, évidemment, cette période donc, s'est conclue par les manifestations de l'hiver 2011-2012 et avant les élections. Là aussi, c'était vraiment passionnant de voir, de participer à ces manifestations et à ce mouvement, et de l'observer en tout cas. Et ensuite, bien sûr, la situation s'est durcie incontestablement, ce qui doit être analysé. Il faut comprendre pourquoi, comment et où ça va. Et en revenant de ce séjour long, qui m'a permis de... Je vivais à Moscou, mais j'ai pratiquement bourlingué dans tout le pays. J'ai profité évidemment de ce séjour. On m'avait recommandé de m'occuper des régions, je m'en suis occupé. Et j'ai écrit deux livres, en fait. Le premier, qui est un livre d'impression, vraiment, de vécu sur la Russie de cette période. J'avais fait des petits textes au cours de mon séjour que j'envoyais à quelques amis et j'en ai fait un livre. Donc, vraiment un tout autre style, pas du tout universitaire et pas du tout académique. Et puis, j'avais envie aussi de revenir sur l'analyse de ce pays, dirigé par Vladimir Poutine depuis maintenant 1999, fin 99, d'abord comme Premier ministre et ensuite comme président. Et en même temps, j'avais l'idée du titre et j'avais l'idée de la problématique que je voulais donner, entre peur et défi, parce que, effectivement, d'abord, il y a énormément de publications sur la Russie. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Je trouve que, quoi qu'il en soit, en France et en Occident, il n'y en a pas beaucoup qui ont suffisamment de recul et qui ont suffisamment de... Je sais pas, enfin, qui me satisfassent. Et donc, j'avais envie de mettre mon grain de sel. Et avec cette idée que... Alors, il y a une chose incontestable, c'est que ça se voit, ça se traduit dans les médias de différentes façons, mais on le ressent. La Russie fait peur. Enfin, plus exactement, en tout cas, les médias véhicule cette image, cette idée, et aussi bien des présidents américains, des chanceliers allemands qui s'inquiètent à la fois, alors, tout un discours, toute une analyse sur la nouvelle présence russe, ses nouvelles activités militaires, internationales, voilà. C'est intéressant d'ailleurs de se poser la question, est-ce qu'elle fait vraiment peur? Est-ce qu'on joue de ça? Est-ce qu'on le construit? C'est un construit évidemment médiatique. Qu'est-ce qui est en réalité? Et moi, venant de l'intérieur, c'est-à-dire venant d'un séjour long en Russie, j'avais perçu un autre aspect de ce problème, c'est que la peur, ça va dans deux directions. C'est-à-dire qu'il y a sans doute la Russie, incontestablement, fait peur à certaines personnes, ou à certains peuples y compris, dont certains voisins, à tort ou à raison, c'est autre chose, mais ça mérite d'être regardé avec précision. Et en même temps, la Russie a ses propres peurs, a ses propres angoisses. Et l'un ne va pas sans l'autre, parce que pour comprendre l'un, il faut analyser l'autre. Donc il y avait ce double aspect, les peurs, les hantises russes, et la façon dont ce pays, aujourd'hui, est perçu chez nous. Et en même temps, les défis. Parce qu'à la fois, c'est clair, et de ce point de vue-là, Vladimir Poutine a été très clair sur les défis que la Russie doit surmonter pour arriver aux objectifs que lui a fixés à son pays. Ça revient aux premières phrases que vous avez prononcées sur le choc qu'a représenté pour les Russes la situation dans laquelle ils sont retrouvés en 89, 90, 91. De détresse pour une partie de la population, pas pour tout le monde, qui fait qu'ils étaient contents de voir arriver certaines aides, et en même temps le choc psychologique que ça représentait, parce que c'est un peuple fier qui n'avait pas du tout ce genre d'habitude, même s'ils ont traversé beaucoup de périodes difficiles. Et donc le défi, dans son article programmatique, le premier qu'il a fait, fin 99, fin 31 décembre 99, si je ne m'abuse, c'est daté comme ça, il fixe un certain nombre d'objectifs, il fait une analyse de la situation russe, après pratiquement 9, 8 ans d'Eltsine, et de réformes, et tout ça, Il montre que le pays a perdu beaucoup de choses, perdu de la puissance, perdu de l'autorité, pris du retard dans plein de domaines. Il mesure ce retard par rapport aux normes PIB par habitant, etc., du FMI. Et il dit, voilà, il faut qu'on change, il faut changer. Et il se fixe comme objectif de redonner à la Russie sa puissance, son statut international d'acteur dans un monde nouveau qu'il commence à analyser. Et donc, il fixe des objectifs assez ambitieux. Donc, les défis de la Russie, c'est à la fois des défis internes, là aussi, c'est-à-dire des objectifs de reconstruction d'un certain nombre d'infrastructures, de secteurs industriels, de l'agriculture, d'une société qui a été passablement, plus que ça, très meurtrie par une série de crises, 91, 93, 98, 2003, 2008, enfin voilà, des crises politiques, des crises économiques, donc une population qu'on essaye de décrire ces phénomènes, cette évolution, traumatisée, je crois que le mot n'est pas trop fort. Donc voilà, il y a ces défis-là, et en même temps, c'est des défis qu'il projette vers l'extérieur, c'est-à-dire que les défis que se fixe la Russie de Poutine, et Poutine en tant que président de cette Russie, c'est des défis qu'il nous adresse à partir d'une analyse qui est la sienne de la situation internationale, la fin de la guerre froide, avec les États-Unis qui en sortent vainqueurs, qui croient un moment qu'ils vont pouvoir jouer le rôle d'unique puissance, et ensuite la critique de cette idée fausse que les Américains peuvent jouer le rôle d'unique superpuissance, et l'analyse d'un monde multipolaire, c'est à la fois les vœux de la Russie, c'est, je pense, effectivement la réalité, même si les pôles sont inégaux, bien sûr, et la façon dont les Russes s'inscrivent dans ce monde multipolaire en voulant être un des pôles fondamentaux, la façon dont ils organisent leur politique étrangère là-dessus, la façon dont ils nous, l'Union européenne, proposent de définir une nouvelle structure de sécurité internationale, des nouveaux instruments de la sécurité internationale, parce que, disent les Russes, les actuels ne fonctionnent plus. Ils ont été construits pendant la guerre froide. C'est Bretton Woods, c'est tout ce qu'on connaît. Ils ne fonctionnent plus. Et en plus, ils donnent, effectivement, ce sont des instruments qui sont contrôlés en grande partie ou directement, indirectement, par les Américains, qui en usent, évidemment. Et le défi consiste à construire de nouveaux instruments plus adapté à cette nouvelle situation internationale. Et la question, c'est de savoir qui veut construire avec les Russes. Est-ce qu'on accepte ce challenge? Est-ce qu'on va ou pas discuter de cette question et faire quelque chose avec eux ou pas? Si on refuse, quelle est notre position vis-à-vis de ces questions? Donc ça, c'est des défis qui sont vraiment très forts. Et c'est dans le cadre de ce défi qu'on observe des modifications de grande ampleur avec un basculement de l'intérêt. C'est pas... Attention, tout ça, ce sont des processus, c'est pas fait, c'est compliqué, mais quand même, la Chine est depuis 2010 le premier partenaire commercial de la Russie, et on observe peu à peu un rééquilibrage voulu par les Russes vers l'Asie. C'est logique, étant donné leur territoire. Donc voilà, toutes ces questions. Alors, la plupart des livres que j'ai faits jusqu'à présent, je les ai écrits tout seul. Je trouvais ça idiot d'écrire ça tout seul, parce que c'est un peu asséchant de travailler seul. Donc j'ai cherché avec qui je pouvais faire ça, et j'avais une ancienne étudiante brillante, Marlène Laruelle. Elle a travaillé beaucoup sur les questions de nationalisme, patriotisme, la sphère culturelle, intellectuelle, etc. Elle est très, très bonne là-dessus. Elle a un autre avantage pour moi, très, très précieux. Elle vit et elle travaille à Washington. Et donc elle a un accès direct avec non seulement la littérature, mais l'ambiance, les débats américains, et je lui ai proposé d'écrire ce livre ensemble. Je me réjouis qu'elle ait accepté, et donc on a fait ce livre vraiment à deux. Enfin, chacun, on s'est partagé les chapitres. On couvre un champ extrêmement vaste, puisque Moi, je suis géographe, donc on commence par un chapitre sur le territoire, parce que le premier défi auquel la peur, la hantise des Russes, c'est de perdre leur territoire. Ils en ont perdu déjà, de leur point de vue, la tutelle de toutes les républiques ex-soviétiques, qui sont désormais indépendantes, dont trois, les Baltes, sont maintenant membres de l'Union européenne et de l'OTAN. D'autres aimeraient y être. Donc il y a ça. Mais même à l'intérieur du pays, ils n'arrivent pas à contrôler correctement l'Extrême-Orient, dont la population a baissé de pratiquement un quart, entre un quart et un tiers depuis 89, depuis 90, ce qui est considérable. Alors que c'est le pays, la région du pays qui est sur la façade pacifique, la plus dynamique du monde, à côté du pays le plus dynamique, la Chine, donc pas mal de soucis. À la fois hantise, défi, comment faire pour répondre à ce défi. Donc il y a ça, il y a l'aspect, le territoire, après les inégalités territoriales, régionales, etc. Il y a ensuite la population, autre hantise pendant des années. Alors ça s'est un petit peu rétabli, mais les démographes sont des gens prudents. De 90 à 2012, 2013, la Russie a perdu des habitants. Situation absolument anormale en temps de paix. Ça s'est légèrement rétabli, puisque la natalité a légèrement monté, la croissance est redevenue positive, mais les démographes s'attendent à ce que ça replonge, parce que la cohorte des générations fait que la natalité va rebaisser, la mortalité ne baisse pas vraiment, pas suffisamment, et ils ont des problèmes avec leurs migrants, puisque, évidemment, une des solutions, on le sait bien, en Europe, c'est des courants migratoires, sauf que les courants migratoires, un, on les dirige pas tous, deux, ça provoque d'autres phénomènes dans la société, rejet, xénophobie, on connaît tout ça par cœur. Et de ce point de vue-là, la Russie a à la fois des problèmes, des questionnements, des réponses et des répercussions dans la population assez proches de ce qu'on connaît en France, finalement. Même si, évidemment, il y a des choses différentes, mais il y a une chose différente, c'est qu'il n'y a pas vraiment de parti populiste à la FN. Mais ça se répand d'une autre façon. Il y a des mouvements patriotiques, nationalistes, et d'une certaine façon, une partie des cercles dirigeants dans certaines villes mène une politique qui serait assez proche du programme du FN. Donc voilà, on est dans cette situation. Ensuite, il y a une société, là aussi, avec plein de bouleversements qu'on essaye d'analyser et qui ne sont pas finis, parce que ça continue, ces bouleversements sociologique, du travail, qui pose plein de questions, plein de problèmes, et que Vladimir Poutine a essayé de contenir, il donne certaines réponses, par une politique qui est quand même assez spécifique, puisque il a tenu depuis son arrivée, on décrit ça, il donne des exemples et des détails, mais à la fois il a eu une politique sociale extrêmement active vers des catégories qui étaient défavorisées et qui ont subi le choc des crises et des réformes sous Eltsine, les retraités, les fonctionnaires, une partie des fonctionnaires, les enseignants, les personnels de santé, etc. Une vraie politique active qui a permis de réduire en partie la pauvreté. Elle a remonté avec la crise de 2013-2014, d'ailleurs. Mais quand même, une réduction assez sensible, une action sensible vis-à-vis de ces catégories sociales qui font partie du corps de son électorat. Et dans le même temps, les hiérarchies, les écarts de revenus n'ont jamais été aussi importants, continuent de croître, parce que, dans le même temps, le nombre de milliardaires, oligarques et autres en dollars ou en roubles a été multiplié par 10. On peut suivre, on a la liste des milliardaires. Et donc on voit leur nombre décuplé entre 2000 et 2016. Donc voilà, on a une société qui n'a rien à voir évidemment avec la société soviétique, qui est complète et qui est transformée par toutes sortes de processus complexes et en même temps, donc ça renvoie à une situation économique. Alors, j'ai pas le temps de décrire ça, qui est elle aussi très particulière, parce qu'il y a un système de gestion de l'économie qui est vraiment spécifique à la Russie. Là, encore que là aussi, premièrement, alors, ce n'est plus le socialisme. Ce n'est plus, parce qu'on trouve des fois... Non, c'est plus l'Union soviétique, c'est plus le socialisme, c'est le capitalisme, y compris avec un certain nombre d'aspects particulièrement brutaux pendant la période helsinienne. genre capitalisme sauvage. En même temps, on est dans un régime libéral au sens économique, où l'essentiel des agents économiques sont privés ou mixtes. Et là, alors là, on entre dans une situation vraiment spécifique et complexe. L'État, et ça c'est une des choses sur lesquelles Poutine a vraiment imprimé un tournant radical, l'État a repris le contrôle d'une partie de l'économie, mais pas reprendre le contrôle, c'est pas forcément nationaliser. Il a en fait pris le contrôle, y compris avec des structures privées. Par exemple, une bonne partie du pétrole est produit par des entreprises privées en Russie, mais qui reste d'une autre façon, avec un contrôle assez strict de l'État, par le biais d'hommes placés, de parts de capitaux, de types de gestion. Donc on est dans une situation qui est assez ambiguë, avec la formation de conglomérats, avec le jeu des hommes du pouvoir qui interviennent, soit par légalement, par des administrations contrôlées, par le FSB, par un système judiciaire complètement soumis au pouvoir politique et pas du tout indépendant. Enfin, voilà, une gestion très spécifique qui a été décrite par il y a des chercheurs qui ont vraiment travaillé là-dessus. Il y a pas mal de fantasmes, mais il y a aussi des réalités. C'est pas une mafia, c'est autre chose. C'est un système de contrôle semi-privé avec un fort contrôle étatique assez particulier. Et en même temps, une tentative de la part de Vladimir Poutine, c'est difficile à dire si ça va marcher ou pas, de rétablir un certain nombre de secteurs d'excellence. Alors, il y en a qui sont restés d'excellence, industrie d'armement, une partie du spatial, le nucléaire, il y a un certain nombre de secteurs qui sont restés, des secteurs où les Russes sont en pointe et sont concurrentiels sur le marché international, il y en a où ils veulent le redevenir, c'est l'aéronautique, et finalement, ils ont peut-être trouvé une solution avec les Chinois. On verra si ça fonctionne, mais enfin, il y a des grands projets. La navale, certains secteurs de construction mécanique, certains secteurs novateurs. Et là, alors là, il y a une discussion parce que les modes opératoires qu'ils suggèrent sont des modes opératoires qui ressemblent à s'y méprendre à certaines pratiques du plan soviétique administré, dont on se gausse, mais peut-être à tort, parce qu'après tout, au fond, ça ressemble à certaines opérations industrielles françaises des années 40 de l'après-guerre, du gaullisme qui remet en place un certain nombre de secteurs, le CEA, etc. Or, ça a été efficace. Est-ce que c'est obligatoirement inefficace aujourd'hui en Russie? J'en suis pas sûr du tout. Ça peut marcher. C'est pas forcément très rationnel, toujours, du point de vue économique, du point de vue... Ça ouvre un champ infini à la corruption. Donc, il y a à la fois des aspects qui peuvent être positifs, des aspects négatifs, mais ça peut fonctionner. C'est un peu tôt pour dire s'ils vont réussir, mais s'ils réussissent, eh bien, on aura, par exemple, dans l'aéronautique, un nouveau concurrent sur les longs courriers, qui sera russo-chinois. Et, alors que les Russes, au début, ont proposé à Airbus de faire des projets ensemble, ce qu'Airbus a refusé. Bon, on verra ce que ça donne. Voilà, il y a tout ça, c'est assez complexe. En même temps... Une pression administrative et politique sur les agents économiques qui fait qu'une partie des plus dynamiques se découragent et s'en vont. Et ça, évidemment, c'est pas un bon point, parce que le mode de gestion, d'une façon générale, est tellement bureaucratisé, contrôlé, corrompu, que les meilleures initiatives sont souvent complètement découragées. Et ça, c'est un très gros problème qui est aux limites du politique et de l'économique. Alors sur le politique, évidemment, on traite ça aussi. Enfin, on essaye. Il y a une dérive autoritaire. Il est évident que les Russes, Vladimir Poutine, a eu une analyse très carrée et pas forcément complètement logique des mouvements qu'on a qualifiés de révolution de couleur en Ukraine, en Géorgie, en Kirghizie. Il considère que ce qui s'est passé dans l'hiver 2011-2012, à peu près clairement, c'est une autre tentative du même genre, blanche, puisque c'est la couleur blanche qui avait été choisie par les manifestants à l'époque, c'est-à-dire pour Vladimir Poutine, il l'a dit dans plusieurs discours, c'est une tentative en Ukraine, en Géorgie, et c'est pas complètement faux, une tentative des Occidentaux, des Américains, de modifier le rapport de force politique à l'intérieur d'un pays. Bien. Sauf qu'il y a une autre partie de l'analyse que les Russes oublient, c'est la situation politique et sociale dans chacun de ces pays, qui explique aussi pourquoi les Américains peuvent agir, c'est-à-dire la corruption, les oligarques, etc., et qui explique pourquoi, en Russie même, il y a une grande partie de la population qui est nadaïl, qui en a marre d'un certain nombre de choses, de la corruption. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a eu cette manifestation-là, mais il y avait la manifestation du 26 mars, c'est-à-dire les manifestations à l'appel de Navalny, à partir d'un dossier extraordinaire. Il a monté un dossier sur l'enrichissement personnel de Medvedev. Visiblement, les Russes surveillaient Poutine pour pas qu'on... Poutine s'est bloqué. On sait rien sur lui, personnellement, je veux dire. Sa vie, tout ça, privé, on sait rien, pratiquement. Mais visiblement, ils n'ont pas surveillé Medvedev. Et Navalny a compris ça, et il a fait un dossier, mais extraordinaire. Allez le voir en russe, c'est magnifique, un truc incroyable. Et à partir de là, il y a eu des manifestations dans tout le pays sur la corruption, nadaïr, et la façon dont le pouvoir politique régit donc un certain nombre de choses. Et ce qui a frappé de stupeur l'administration présidentielle, d'une part, c'est le succès de ces manifestations. Deuxièmement, il y avait une majorité de jeunes adultes, et ils se sont aperçus que pratiquement les enfants des élites dirigeantes d'aujourd'hui sont dans la rue, parce qu'ils en ont marre aussi. Enfin, pas tous les enfants, parce qu'il y a des enfants qui sont bien casés, on le montre aussi dans le livre. Mais voilà, ils ont compris qu'ils avaient un gros problème, parce qu'ils étaient en train de perdre la jeunesse. Alors bien sûr, la tentation, c'est de serrer les boulons, comme on sait faire. Tout ça s'est passé par les réseaux sociaux. Donc il y a des gens, des conservateurs, les faucons poutiniens, qui ont proposé de verrouiller Internet, comme en Chine, etc. Poutine a dit non. Il y a eu une intervention de Poutine disant « il n'est pas question de renforcer les contrôles sur Internet pour l'instant, on verra bien ce qui se passera, mais on en est là ». C'est pas comme ça qu'il faut faire, d'autant plus que c'est extrêmement difficile. La société russe, c'est pas sûr qu'elle l'admette, comme en Chine. Et en plus, parce qu'ils ont eu tout de suite des exemples. Ils ont passé des consignes dans l'université, il faut faire la morale aux étudiants pour qu'ils manifestent plus, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors les profs, certains profs se sont hasardés à ce genre de mise en garde. Les étudiants en douce ont filmé, ont passé les interventions de certains profs sur le YouTube russe. Ça a provoqué des trucs complètement incroyables, tellement c'était absurde, indigent impossible à supporter. Donc ils sont dans une situation... Voilà, il y a une situation politique qui est vraiment compliquée. Effectivement, alors, il y a... tous les instruments du contrôle ont été renforcés depuis 2010. La loi électorale, les lois sur la presse, sur les médias. Maintenant, il n'y a plus aucune société occidentale qui peut posséder un média... qui peut posséder plus de 20% d'un média russe. Donc il y a une reprise de contrôle de ce point de vue-là. Sur les ONG, sur les homosexuels, etc. Et pas seulement en Tchétchénie, etc. Donc une série d'instruments de contrôle qui sont renforcés, etc. Et en même temps, la société russe, elle est vivante. Et la société russe, elle ne se laisse pas encadrer comme ça. Parce qu'elle n'a jamais été encadrée. Même au temps de Staline, il y avait des manifestations, alors évidemment très différentes, tout ce qu'on veut, mais il y avait quand même une vie d'une société complexe et qui n'a jamais été complètement apathique et complètement soumise aux injonctions du pouvoir. Et or, Poutine, il est clair qu'il va être candidat aux élections de 2018, ça sera son dernier mandat, parce qu'il n'a pas changé la Constitution en 2008, il n'y a pas de raison qu'il la change maintenant, à son âge. Donc il sait que c'est son dernier mandat, il veut faire quelque chose, il veut marquer l'histoire. Il l'a déjà marqué avec la Crimée, hein, et puis pour d'autres choses. Mais bon. Mais il veut que les élections soient propres, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas toutes les dérives qu'il y a eu en 2011-2012. Mais pour ça, alors, et il veut être élu au premier tour, et il veut qu'il y ait un pourcentage quand même satisfaisant. Sauf que pour que les gens viennent voter, il faut quand même qu'il y ait des concurrents. Or, s'il n'y a que des concurrents genre Zyuganov ou Jirinovski, ça ne marchera pas, parce que ça, les gens, ils ont compris que ce n'était pas vraiment une opposition. Donc il faut des vrais opposants. Mais Navalny, c'est quand même autre chose. C'est un peu plus que ça. Ils l'ont laissé aux élections de Moscou, il a fait 27%, je crois. Donc c'est un candidat d'une autre nature. C'est un candidat, c'est pas celui qui s'est présenté aux élections présidentielles et qui a fait 6% je ne sais plus. Prokhorov. Prokhorov, personne n'y croit, donc il faut des gens crédibles. Mais voilà, donc il y a une situation compliquée. Et puis alors, en plus, après il y a eu l'attentat à Saint-Pétersbourg, qui montre que la sécurité, parce qu'ils se vantaient, regardez, en France, il y a des attentats, ils sont nuls, ou je sais pas quoi. Enfin, la télévision russe est complètement abominable. Vraiment, c'est pas avec ça qu'ils vont persuader. Enfin bon. Et tout d'un coup, un attentat au cœur de Saint-Pétersbourg, le jour où Poutine y est, en plus. Donc vraiment, beaucoup de problèmes. Et je vais peut-être m'arrêter là. Enfin, si, en tout cas, ma demi-heure est passée.
Si vous n'êtes pas contre, on va peut-être continuer encore un tout petit peu, parce qu'il y a vraiment plein de chapitres extrêmement intéressants, et je serais vraiment contente si vous entendiez ça. On va peut-être
dernière chose, peut-être, parce que le dernier chapitre, c'est sur les relations internationales et le rôle que joue la Russie. Alors là-dessus, bien sûr, c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a une volonté évidente de retrouver un rôle international, qui s'appuie sur des fondements fragiles, puisqu'on a une économie fragilisée qui n'a pas retrouvé vraiment la croissance. Donc il est clair que voilà, ils sont handicapés sur ce plan. Ils ont, par contre, il y a un élément très important dans les instruments de la politique internationale, qui est les réformes de l'armée, qui ont été extrêmement importantes. Ils ont tiré les leçons d'un certain nombre d'échecs. Il y a l'échec tchétchène, échec relatif, mais échec quand même. La façon dont... Alors c'est Eltsine, je rappelle que c'est sous Eltsine que le premier conflit tchétchène a commencé, mais qui s'est soldé par une défaite russe, quand même, sur son propre territoire. Il y a aussi, donc, tout ça... Ensuite, il y a le conflit géorgien, 2008, où là, les Russes sont sortis victorieux, mais avec tout un certain nombre de défauts qui ont été montrés du doigt, à la fois techniques... d'organisation, etc., et qui fait qu'ils ont lancé à ce moment-là une grande réforme de l'armée, très importante, qui n'est pas finie, avec des moyens qui ne sont pas ceux de la Chine et pas ceux des États-Unis, loin de là, un budget militaire bien inférieur, mais un effort réel de restructuration, de modernisation, et qui porte ses fruits. Et évidemment, ce qui s'est passé en Syrie, avec tout ce que les Russes peuvent faire, sont capables, parce que quand même, c'est absolument incroyable d'avoir réussi, puisque je vous rappelle, enfin dans la chronologie, mais les tirs de missiles depuis la mer Caspienne sur des cibles, avec un nouveau missile sur des cibles syriennes, ils l'ont fait le jour de l'anniversaire de Vladimir Poutine. Ça, c'est quand même, il n'y a que les Russes qui sont capables d'un truc comme ça. Mais en même temps, en montrant aux Occidentaux qu'ils étaient capables, un, de mener des opérations militaires sur plusieurs fronts, puisqu'ils étaient en Ukraine, au Donbass oriental, et en Syrie, donc dans deux champs d'opérations très différents et très éloignés l'un de l'autre, l'un presque en interne et l'autre très loin, enfin assez loin, et donc une capacité d'intervention et en même temps un discours politique, alors qui est à la fois, qui pose toute une série de défis, comme je l'ai dit, sur les questions de sécurité, sur les problèmes d'ingérence, sur les problèmes d'équilibre politique. En même temps, c'est un discours qui n'est pas complètement cohérent, puisqu'ils accusent les Occidentaux de double langage, d'ingérence, la Libye, l'Irak, évidemment, l'Afghanistan. Ils ont répété à plusieurs reprises qu'on vous avait dit, attention, n'allez pas en Afghanistan. Nous, on a compris les erreurs soviétiques, on ne veut plus les refaire. Et en même temps, ils s'ingèrent en Ukraine, de toute évidence. Donc c'est un discours qui est... pas complètement, ils peuvent pas en même temps accuser les services américains d'intervenir à Kiev, et puis eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est quand même un peu compliqué. En même temps, on est dans un certain nombre de propositions et de champs d'intervention et d'organisation qui sont très intéressantes à analyser et à comprendre, la façon dont ils ont renoué le dialogue avec la Chine de façon active, une fois que les problèmes territoriaux frontaliers ont été résolus, l'organisation de Shanghai, tous les accords avec la Chine, tout en sachant qu'ils sont parfaitement conscients que la Chine est un partenaire redoutable et compliqué, et bien supérieur aujourd'hui en puissance que, et ils le savent, mais c'est une logique de part et d'autre d'ailleurs. Je crois que et les Russes et les Chinois ont compris qu'ils ont avantage à coopérer et à avoir une coopération active, à la fois par rapport au reste du monde et par rapport aux États-Unis et à l'Union européenne. Et donc ça va se faire. Et quelles que soient les critiques, les analyses un peu en disant mais non, ils sont trop concurrents, ça ne peut pas marcher, ils sont rivaux, je pense que c'est sérieux et que ça va durer. L'autre aspect, c'est que les Russes ne se laissent pas enfermer dans le dialogue russo-chinois. Ils ont repris le dialogue sur le traité de paix avec les Japonais. On verra, ça va prendre du temps, mais ça va avancer certainement. Ils ont repris le dialogue, ils sont en communication avec les Coréens du Sud, avec l'Inde, avec le Vietnam. C'est-à-dire que vraiment, ils ont une politique asiatique maintenant. Quand on lit des articles disant Vladimir Poutine, la Russie est isolée, je n'y crois pas un instant. Elle est isolée par les Européens s'ils ne veulent pas la rencontrer. Mais nous, il faudrait quand même qu'on sorte la tête du sable et qu'on regarde le monde tel qu'il est. Le monde n'est plus européen. Il n'est même plus vraiment complètement occidental. Il est différent. Et, et les Russes, ils analysent le monde. Ils n'analysent pas le monde du point de vue de l'Europe. Ils ont de ce point de vue-là une avance sur nous, je pense. Et en même temps, de grandes faiblesses, et en particulier, chose extraordinaire, mais ce n'est pas étonnant non plus, un des échecs de la politique internationale russe, c'est l'étranger proche. C'est-à-dire, c'est les relations avec leurs voisins immédiats. Ils se sont fâchés avec les Ukrainiens, fâchés avec les Géorgiens, pas très bonnes relations avec les Moldaves, fâchés avec les Baltes. Les relations avec la Biélorussie et le Kazakhstan, et quelques autres, sont meilleures. Mais quand on gratte un peu le discours kazakh et le discours biélorusse, on trouve plein de critiques sur la politique russe. Donc il y a vraiment un gros problème de définition de la politique vis-à-vis des anciennes républiques soviétiques. Pour l'instant, ce n'est pas du tout clarifié. Ils en sont restés à des schémas qui ne fonctionnent pas. Soit parce qu'ils croient au côté naturel de l'influence de la puissance tutélaire, soit parce qu'il y en a qui ont une vision néo-impérialiste. C'est pas forcément pas au sens où ils voudraient reprendre les territoires, mais une conception de l'influence vis-à-vis de ces pays qui ne fonctionne plus et du coup qui est contre-productive. En même temps, il faut faire attention à un certain nombre de choses. Là, je viens d'écrire plusieurs articles sur le... Il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se passer et qu'on n'a pas assez bien noté, je crois. Vladimir Poutine est en train, ça fait déjà un moment, mais de mettre en place un certain nombre d'infrastructures nouvelles qui vont modifier les rapports de force dans toute cette région. Pratiquement, d'ici un an, ils vont arrêter tout transit d'hydrocarbures par les États baltes. Ils vont être bientôt en mesure d'arrêter le transit de gaz par l'Ukraine. Ils ne le feront pas, mais s'ils ne le font pas, c'est parce que ils vont décider de ne pas le faire pour pas complètement mettre à genoux l'Ukraine. Enfin, il y a une politique soutenue d'ailleurs par l'Union européenne. Donc, mais c'est très important. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se doter d'un certain nombre d'instruments, y compris d'infrastructures fondamentales qui manquaient et qu'ils sont en train de réorganiser et qui vont modifier les rapports géopolitiques et géographiques dans toute cette zone. Alors en même temps, il y a des aspects extrêmement qui nous interrogent et qui m'interrogent, en particulier la dérive conservatrice, on peut l'appeler comme ça, ou la croisade conservatrice. Au début, il y avait un certain nombre d'analystes russes qui disaient d'ailleurs, et j'étais plutôt d'accord avec ça, que c'était une fausse piste, c'est-à-dire l'idée que cette croisade conservatrice, le retour, les aspects moraux, la famille, le mariage anti-homosexuel, etc., toute une série de l'Église orthodoxe et les religions d'une façon générale, enfin, toute une série de choses comme ça, qui sont liées et qui ont été très loin, avec des alliances, avec des partis, et pas seulement, il y a le FN, puis il y a Fillon, et puis il y en a d'autres, et puis il y a aussi, pensez qu'en 2013, on cite ça, le plus grand mouvement ultra-conservateur américain envisageait de faire son congrès à Moscou. Parce qu'ils avaient vraiment lié leurs problématiques. Et ça ne s'est pas fait à cause de la crise ukrainienne. Parce que là, les Américains, ils n'ont pas pu faire ça à Moscou après la crise ukrainienne. Or, moi, j'avais tendance à dire, comme certains analystes américains, que c'était une fausse piste, qu'avec ce type de propagande et de croisade, il ne rencontrerait pas beaucoup de soutien. Les élections récentes aux États-Unis, en France, montrent que peut-être il ne faut pas prendre la réalité pour ce qu'on souhaite pour la réalité. Et malheureusement, c'est clair, malheureusement, oui, enfin, on peut lutter contre. Cette tendance conservatrice, ce repli conservateur, on l'observe dans beaucoup de pays, et les Russes surfent là-dessus en proposant un certain nombre de choses très concrètes avec lesquelles, bon, ben, c'est pas si évident de lutter parce que ça reçoit l'assentiment. Et en plus, nous, on voit ça du point de vue européen, mais dans les pays d'Afrique ou d'Asie, les réactions sont encore différentes parce que eux, leur façon de poser ces problèmes de société, etc., sont encore différents. Leur rapport à la religion, etc., tout ça est différent et ça a peut-être plus d'écho dans ces pays-là. Enfin, on se retrouve de toute façon avec voilà, ça fait partie aussi de la complexité, de l'évolution du monde actuel qui n'est pas forcément très rassurant et très positif de mon point de vue, et peut-être du vôtre aussi, mais qui est la réalité. Voilà, je m'arrête là cette fois-ci.